Chapitre 17. La dernière partie du chapitre précédent, du verset 14 à la fin, s'adressait aux pharisiens. Au début de ce chapitre-ci, le Seigneur s'adresse de nouveau à ses disciples. Les biens de l'homme riche avaient été pour lui une occasion de chute et l'avaient entraîné en enfer. Et maintenant le Seigneur dit à ses disciples que, le monde étant ce qu'il est, les scandales ou occasions de chute sont inévitables. La chose importante est d'éviter d'être une occasion de chute à qui que ce soit, même aux petits. Les conséquences en sont si graves que n'importe quoi vaut mieux que cela. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne devions jamais parler à notre frère par crainte de lui être en achoppement. Bien au contraire, s'il se détourne du droit chemin et pêche, nous devons le reprendre et aussitôt qu'il se repent, lui pardonner, et cela même si la chose se répète plusieurs fois. On pourrait penser qu'on risque de lui être en achoppement en le reprenant, mais en fait, c'est ne pas le reprendre qui comporte ce risque. Il va de soi que la réprimande est adressée non sous l'effet d'une colère humaine, mais dans la puissance de l'amour de Dieu. Un enseignement tel que celui-ci fait sentir aux disciples qu'ils ont besoin d'une foi plus grande. La réponse du Seigneur semble impliquer qu'il ne s'agit pas tant d'une grande foi que d'une foi vivante. Un grain de moutarde est très petit, mais il est vivant. Une foi vivante obtient des résultats de caractère miraculeux. Maintes fois, de lourds pavés ont été décelés par des pousses délicates provenant de semences vivantes enfouies dessous. Même la vie végétale a une puissance qui paraît miraculeuse. Et c'est d'autant plus vrai pour la foi vivante. Néanmoins, ce n'est pas la foi que nous possédons, ce n'est pas le service que nous accomplissons qui nous donne quelque droit devant Dieu. Nous ne pouvons jamais accomplir plus qu'il n'était de notre devoir de faire. Il semble que ce soit la vérité inculquée dans les versets 7 à 10. Le Seigneur est maintenant en route pour aller à Jérusalem, et nous arrivons à l'incident touchant des 10 lépreux. Tous avaient une certaine mesure de foi en lui, car ils font appel à lui comme maître, et ils obéissent aux instructions qu'il leur donne d'aller vers les sacrificateurs, bien qu'à ce moment-là, il n'y eût pas de changement dans leurs conditions. Pourtant, lorsqu'ils furent rendus nets, 9 d'entre eux continuèrent leur route vers les sacrificateurs afin d'achever leur purification cérémonielle le plus tôt possible. Un seul remet à plus tard l'accomplissement du rite afin de donner la première place à son bienfaiteur. L'esprit juif était davantage lié par ce qui était rituel. Le pauvre Samaritain est libre de rendre louange et action de grâce au Sauveur avant toute chose et d'être déclaré pur par les sacrificateurs après. La miséricorde souveraine avait été dispensée et la brève vision de la personne qui a dispensé la miséricorde élève le Samaritain au-dessus des coutumes de la loi. En conséquence, il reçoit des lèvres même du Seigneur l'assurance d'être rendu net, avec la déclaration que sa foi en avait été l'instrument. Cela avait bien plus de valeur que toute assurance qu'il pouvait recevoir des sacrificateurs. La foi intelligente met toujours Christ en avant. Dans les versets 20 et 21, Luc met en opposition le scepticisme inintelligent des pharisiens avec la foi du Samaritain. Pour eux, le royaume de Dieu ne pouvait venir qu'avec un déploiement de pompe, de façon à être remarqué par chacun. Le Seigneur leur dit que ce n'était pas le temps pour qu'ils viennent de cette façon, mais qu'ils se trouvaient déjà au milieu d'eux, d'autant que lui, le roi, était là. Le royaume se trouvait au milieu d'eux, car lui-même se trouvait au milieu d'eux. Les pharisiens avaient les yeux tout à fait fermés pour le voir, mais le Samaritain l'avait évidemment entrevu. D'où sa hâte de revenir en arrière pour se jeter à ses pieds, lui rendant grâce. Au verset 22, Jésus se tourne à nouveau vers ses disciples, parlant des jours du Fils de l'homme. Évidemment, c'est le Fils de l'homme qui devra prendre le royaume lorsque viendra l'heure où il sera établi publiquement, comme Daniel 7, versets 13 et 14, l'avait fait connaître depuis longtemps. Or, les disciples, comme le Samaritain, avaient la foi et voyait déjà la puissance et l'autorité de Dieu confiée au Seigneur Jésus. Ils allaient aussi, autant convenable, voir le Fils de l'homme révélé dans sa gloire. Le verset 30 ainsi que le verset 24 en parlent. Mais auparavant, il allait être rejeté. Et les paroles rapportées jusqu'à la fin du chapitre leur étaient évidemment adressées. Il représentait les saints qui seraient sur la terre avant sa venue en gloire. Nombreux sont ceux qui ont désiré de voir un des jours du Fils de l'homme et ne l'ont pas vu. Lorsque l'heure de sa venue approchera, deux choses caractériseront ces jours-là. D'abord, il y aura beaucoup d'activités de la part des puissances de méchanceté. Des imposteurs se présenteront ici et là, comme l'indique le verset 23. En second lieu, les hommes en général seront absorbés par les choses de la terre. Au jour de Noé et au jour de Lot, les hommes étaient absorbés par leurs plaisirs, leurs affaires, leurs projets. En conséquence, le jugement les prit au dépourvu et ils périrent tous. Ainsi en sera-t-il au jour de la révélation du Fils de l'homme. La grande pensée renfermée dans le verset 33 ne se rencontre pas moins de 6 fois dans les évangiles, et le Seigneur semble l'avoir prononcée en 4 occasions différentes. Le contexte ici la rend très frappante. Les hommes se plongent dans les choses de la terre, cherchant à sauver leur vie. En conséquence, ils ne font que la perdre. Le croyant doit abandonner ces choses en faveur de choses bien plus grandes qui lui sont révélées. Il conserve sa vie, comme ce sera évident lorsque le Seigneur viendra. La femme de Lot est une illustration de ce principe. Les anges la firent sortir, corporellement, de Sodome, mais son cœur y était encore. Elle perdit tout ce qu'elle possédait, et elle perdit aussi la vie. Nous faisons bien de nous souvenir d'elle. Ceux qui seront sur la terre lorsque le Seigneur viendra feront bien de s'en souvenir également. Alors, ils ne penseront pas à emporter les affaires qu'ils auront laissées à la maison ou à retourner en arrière depuis les champs. Ce jour-là viendra avec la rapidité de l'aigle qui fond sur sa proie. Tout comme les aigles se rassemblent partout où se trouve leur proie, ainsi le jugement de Dieu atteindra tous ceux qui en sont passibles. Le royaume, lorsqu'il sera établi, sera marqué par un jugement discriminatoire contre le mal. Le pécheur sera pris pour le jugement et le juste laissé pour jouir de la bénédiction, si étroitement associés qu'ils aient pu être. Si les pharisiens s'étaient rendus compte que l'établissement public du royaume comportait cela, ils n'auraient peut-être pas demandé quand cet événement aurait lieu. Il est intéressant de remarquer que les 3 cas mentionnés par le Seigneur dans les versets 34 à 36 évoquent respectivement la nuit, le petit matin et le plein jour. Quand il viendra, les hommes seront surpris inopinément dans tous les lieux de la terre, dans leur occupation du moment.